ce que j'avais préparé il y a quelque temps, les défis, parce que l'église d'Éphèse, on en a trois grands spots, si je peux dire, dans les Écritures. L'implantation dans le livre des Actes, autour de Actes chapitre 18 et Actes chapitre 19. Après ça, on a toute une épître qui tourne autour de la vie dans l'église d'Éphèse, la première épître de Paul à Timothée, qu'on va regarder certains éléments ce soir, où Paul dit à Timothée, « Je t'ai laissé à Éphèse, afin que... » Puis là, il dit des choses. Et là, il va lui donner de l'enseignement utile pour l'église d'Éphèse. Et finalement, 30 ans plus tard, on a un dernier... je pense que c'est la notion de continuité. On a un dernier spot sur l'église d'Éphèse que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il est une des sept églises que Jean a écrit et où il donne une évaluation et comment continuer avec Éphèse. Alors ce soir, la dernière fois on a fait l'implantation. Ce soir, on va regarder les défis de l'église puis l'évaluation du Seigneur de l'église d'Éphèse 30 ans plus tard. Mais en premier, on va se courber devant Dieu, puis on va lui demander sa grâce pour la soirée, pour l'enseignement de la parole. J'aimerais que ce soit encore interactif, là, pas juste vous donner vider mon sac, comme dirait l'autre, mais qu'on ait de l'interaction sur le thème qu'on va voir ce soir. Seigneur notre Dieu, merci encore parce que ta parole est une lumière sur notre sentier. Et on voudrait, Seigneur, qu'elle éclaire nos vies, qu'elle éclaire notre conduite, et que, Seigneur, elle puisse nous montrer comment vivre pour toi, comment te glorifier, non seulement dans nos vies individuelles, mais, Seigneur, en Église. Comment l'Église peut te glorifier, comment elle peut marcher de manière digne de toi. Seigneur, on veut te remercier aussi pour l'opportunité que tu nous donnes de briller dans le monde qui nous entoure. Je te remercie, Seigneur, pour Guillaume et pour son ami Carl, à qui il a communiqué sa foi, son désir de vivre pour toi. Et Seigneur, merci parce que, évidemment, tu as travaillé dans le cœur de Carl Humphrey. Et on veut te prier, Seigneur, que tu puisses continuer de le faire, que tu puisses le convaincre de ses besoins les plus essentiels de salut. Et Seigneur, que tu puisses diriger ses pas, non seulement vers la croix du calvaire, mais vers une vie, Seigneur, qui va t'honorer. Alors, Seigneur, bénis-le cette semaine. Parle à son cœur. Prépare-le, Seigneur, pour le temps qu'il va passer avec Guillaume ou le temps qu'il passera, Dieu voulant, dimanche prochain parmi nous. Alors, Seigneur, encore merci pour ta grâce. Dirige-nous. Ouvre ma bouche pour qu'elle puisse être remplie de ta parole et inspirée par ton esprit, Seigneur. Je t'en prie, au précieux nom de Jésus. Amen. OK, alors j'aimerais que vous tourniez dans 1 Timothée, au chapitre 1. Comme j'ai mentionné, le deuxième voyage de Paul, on est autour des années 50. Son troisième voyage, on est autour des années 55, où il implante des églises autour d'Éphèse. Et après ça, Paul retourne pour un quatrième voyage. Puis ce quatrième voyage-là, il va à Jérusalem, il se fait arrêter, puis finalement, il se ramasse en prison. À Césarée d'abord, ensuite à Rome. Et là, après 3 ans d'attente, il est libéré. Et qu'est-ce que Paul a envie de faire quand il est libéré de prison? Il va retourner, visiter les églises et continuer à les affermir, comme il a fait après chaque voyage. Il va retourner à Éphèse et il va rencontrer Timothée qui est là. Et il va l'encourager à nouveau, puis il va laisser Timothée à Éphèse pour régler des défis que l'Église d'Éphèse est en train de vivre, des défis de fausses doctrines, des défis de désordre dans le culte public, et aussi des défis dans des anciens qui peut-être sont des anciens qui sont pas qualifiés puis qu'il faut reprendre. Alors il y a des défis à l'église d'Éphèse, et il va laisser Timothée pour ça. Regardons les versets 1 Timothée 1, les versets 3 à 7. Et on va voir un premier élément, et après ça, 18 à 20. Quelqu'un pourrait lire 1 Timothée 1, 3 à 7, puis un autre 18 à 20, du même chapitre. Oui, Richard, pour 1, 3 à 7, et un autre pour 18 à 20, Jean-Philippe. Jean-Pierre, voyons. Oh, ça arrive, des affaires de même. Hein? Merci, Jean-Pierre. Merci. OK, 18 à 20. OK. Alors, Paul, il a visité l'église d'Éphèse. Puis, il y avait des petits défis là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait comme défi? Qu'est-ce qu'on a lu? Vous avez trouvé que tout allait bien? Il dit, je t'ai laissé à Éphèse, premièrement, pour que tu règles quoi? Problème de discipline. Et au niveau de quoi? Il y avait de l'enseignement de mauvaise doctrine. Et est-ce qu'on a une petite idée de quelle sorte de mauvaise doctrine qu'il y avait, finalement? Il y avait des gens qui enseignaient des mauvaises doctrines. Il dit, verset 4, il donne un petit peu... il s'attache à des fables, à des histoires, à des généalogies, probablement dans l'Ancien Testament, des liens... Ils ont des vaines discussions. Et verset 7, ils voudraient être docteur de la loi. De quelle loi? De la loi de Moïse. Alors, on semble qu'il y a des choses un peu de l'Ancien Testament, là, des choses qui traînent de l'Ancien Testament, peut-être judaïsant ou quelque chose comme ça, mais il y a des fausses doctrines qu'il y a des leaders dans l'Église qui enseignent et Paul dit, je te laisse à Éphèse parce que il y a ça à confronter. Et est-ce que c'est juste au moment où il est parti? Est-ce que c'était présent quand Paul a été visiter l'église d'Éphèse? Verset 18 à 20. Alors, ouais, verset 18 à 20. Parce qu'il dit, le but aussi de cette recommandation-là, c'est que les croyants aient un amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Puis là, il retourne au verset 18. Je veux que tu combattes le bon combat. Comment? En gardant la foi, puis une bonne conscience. Puis là, il dit la foi, puis une bonne conscience. Il y en a qui l'ont perdu. Ils l'avaient, puis ils l'ont pu. Ils l'ont perdu. Et ça devait être des dirigeants, je m'imagine, dans l'Église, parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, puis ça a été assez sérieux pour que Paul lui-même, comment il intervienne? Il y en avait deux, Hyménée, puis Alexandre. Il a dû les livrer à Satan. Il a dû les excommunier. Pourquoi je dis que ça devrait être probablement des ouvriers, ça, des anciens, plutôt que des membres? Ça va aller dans 1 Timothée 5, un peu plus tard. Il va dire quoi faire avec des anciens. Faire attention, pas les imposer les mains trop vite, puis comment les discipliner. Il va parler de ça plus tard. Mais Alexandre était quelqu'un qu'on avait vu à Éphèse, qui avait, pendant le tumulte avec l'orfèvrerie. Et je m'imagine que si un frère, une sœur a des difficultés dans sa vie chrétienne, dans l'Église... Bien, j'imagine que c'est d'abord les uns les autres qui vont s'exhorter, s'encourager, se discipliner. Mais là, c'est même pas Timothée dans un sens qui est là, c'est même pas les anciens qui sont là, c'est Paul qui vient à l'église et qui discipline ces personnes bien précises, Hyménée et Alexandre, et ce sont des gens qui, dans un sens, qui enseignent. Ils se disent docteurs de la loi, alors ce sont probablement des enseignants que Paul va discipliner. Et il laisse justement Timothée à Éphèse pour continuer le travail. Oui, ça. OK, alors Hyménée, on vient de le noter. Qui? Et puis, il enseigne. Alors, c'est des enseignants dans l'Église. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Leur conscience était croche. Et là, leur enseignement, alors, c'était pas des croyants dans l'Église qui s'aimaient les uns les autres, mais c'était plutôt des enseignants, des anciens qui ont dû être repris. Alors, il y avait des défis au niveau, je pense, des fausses doctrines qui commençaient à s'infiltrer. Regardez aussi maintenant le chapitre 2. Il me semble que dans l'église d'Éphèse, il y avait aussi des un peu de désordre dans l'ordre, dans le culte, quand il y avait le culte. Chapitre 2, à partir du verset 1. Il parle un peu comment, quand l'Église se rassemble, qu'est-ce qu'on doit faire? J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, de faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Quand vous vous rassemblez, je veux qu'on fasse des prières. Et là, il va clarifier au verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et le verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent pas de tresse, etc. » Mais dans le culte public, je veux que l'on prie pour les personnes en autorité. Je voudrais que les hommes se prient sans violence, sans colère, avec des mains pures. Je veux aussi que les femmes prient, mais qu'elles aussi, elles aient une attitude, une présentation qui est digne des dames. J'aimerais qu'on lise les versets 9 à 15 qui nous mentionne cette notion-là d'ordre dans le culte public. Quelqu'un peut lire 9 à 15 de 1 Timothée chapitre 2. Vas-y, Danny. OK, alors c'est un texte qui a beaucoup d'écrivains qui ont versé beaucoup, beaucoup d'encre. Mais qu'est-ce que ça dit en général, avant d'aller dans les petits détails? Qu'est-ce que ça dit? Je veux que les hommes prient en église, je veux que les hommes prient. Comment est-ce qu'ils doivent prier? En élevant des mains pures, sans colère, avec des bonnes attitudes de cœur, prier pour les rois, pas être « Seigneur, juge-les », puis élever des mains pures. Puis je veux aussi que les femmes prient. Puis eux autres, quelle est leur attitude ou leur apparence, dans un sens, quand ils vont prier? Okay, intéressant que tu emploies ce mot paisible, ça va un peu plus loin. Les vrais mots. Ouais, c'est ça. Alors, mais là, ça, c'est dans l'instruction, dans le sens. Mais d'abord, je veux de même que les femmes prient, et quand elles prient dans l'église, quand elles prient dans l'église, d'abord le verset, je voulais qu'on regarde le verset 9 et 10. Toi, tu me parles un peu du verset 11, là. Elles aussi, les femmes devraient prier, mais pas nécessairement avec des mains pures puis sans colère. C'est quoi l'apparence, dans un sens, de la femme qui prie dans l'église? Hein, de manière décente, de sorte que quand les gens la voient prier, qu'est-ce qui la frappe? Qu'est-ce qui les frappe? Son beau chapeau, ses grosses perles, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas en avoir ni chapeau, ni perles, ni make-up, ni... C'est ça que c'est en train de dire? Non, c'est pas ça qui doit... C'est quand la femme va se lever pour prier dans l'église, c'est pas ça qui doit sauter au visage des gens. Mais qu'est-ce qui doit sauter au visage des gens quand tu as prié? Hein? Son humilité, ses bonnes œuvres, sa pudeur, sa modestie, sa décence, ça devrait ressortir quand elle prie. C'est son caractère, c'est ça qui devrait être visible quand elle prie. Mais je m'imagine aussi que si Paul insiste là-dessus, c'est peut-être que dans l'église d'Éphèse, il y avait des dames qui priaient, puis qui peut-être aimaient ça se faire voir. S'il le mentionne, c'est peut-être que c'est parce que c'est ça qui arrivait un peu. Il y avait peut-être des madames, et ça peut être bien, ça peut se reproduire d'une génération à l'autre, que la dame, elle aimait être vue. Et pas juste être vu, mais à un moment donné aussi, il dit au verset 11 et 12, un autre élément dans l'exercice du ministère, de peut-être aller au-delà de leur rôle que Dieu leur a assigné. Et en ce qui concerne l'instruction, dans les versets 12, 11 et 12, qu'est-ce que le texte nous enseigne? Oui, au verset 12, d'abord au verset 11, que la dame écoute l'instruction en silence et avec soumission. Silence, ça veut-tu dire qu'elle ne parle pas? Là, Danny a dit, j'ai vu des choses. Et c'est ça, parce qu'on a traduit en silence, mais on a choisi un terme plus fort que le terme grec. Le terme grec, quand il est dit en silence, c'est la notion d'un esprit paisible, avec tranquillité, avec quand il y a l'instruction dans l'Église, le rôle de la dame, c'est plus de le recevoir que de le donner puis de l'imposer ailleurs. Son attitude doit être une attitude d'accueil plutôt que de conduire. Alors que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, j'ai déjà mentionné que le mot en silence ici, c'est le même que tranquille que l'on a lu dans le verset 2. Là. Oui, Claudette. C'est ça. Ou sont très... C'est ça. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas correct? Est-ce que ça serait correct? Oui, c'est ça. Mais oui, Claudette, je ne veux pas mettre de pression sur les dames du Moyen-Orient. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que peut-être que prier avec une certaine forme d'exubérance, je suis même pas sûr si c'est pas correct, ça. Je pense que ça peut être très correct. C'est une manière très culturelle chez les gens de l'Orient d'exprimer leur prière, leur cri de façon passionnée. Je suis pas sûr que c'est ça que Dieu est en train de dire aux dames, exprimez-vous pas. Mais comment vous allez vous exprimer, par exemple? C'est plutôt, qu'est-ce qu'on va voir quand vous allez prier? Est-ce qu'on... Ah oui, c'est ça. Ah non, OK. Mais je pense que la dame pouvait prier encore aujourd'hui Si une dame se levait puis elle priait avec pleurs puis avec intensité pour sa sœur qui a besoin de connaître le Seigneur puis qu'elle priait dans un culte public, peut-être que ça nous surprendrait, peut-être qu'on serait peut-être un peu inconfortable, mais je suis pas sûr que ça soit mauvais. Je pense pas que ce soit mauvais en soi. Si la dame, c'est quand je la vois, elle est modeste, elle a une parure d'une personne qui aime Dieu puis qui veut le servir puis qui a à cœur. Ce qui va me frapper, ça va être son cœur là-dedans, plutôt que ses tresses ou son chapeau ou peu importe. Ça va en général? Alors, une espèce d'apparence d'abord, mais que la femme dans le culte public, elle ait une attitude d'accueil. Et là, il va continuer en disant, au verset 12, ben je permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer encore dans cette attitude paisible. Qu'est-ce que Paul est en train de vouloir dire quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité » Il y avait probablement dans l'église d'Éphèse des dames qui exerçaient leur ministère au-delà des limites que Dieu avait données. Et quelle était cette limite? Je permets pas à la femme d'enseigner. Le mot qui est là, didaskein, et de, je dirais, de formuler l'enseignement officiel de l'Église. C'est pas à la femme d'être la responsable de l'enseignement dans l'Église. C'est la responsabilité de qui, ça? Hein? De l'homme. On va voir dans 1 Timothée, chapitre 3, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et là, il va expliquer que c'est un rôle d'ancien, c'est un rôle d'évêque, c'est un rôle de pasteur que de formuler l'enseignement de l'Église. L'enseignement doctrinal, l'enseignement formel de l'Église, ça doit être assumé par un ancien, par un homme. C'est à eux à formuler l'enseignement officiel de l'Église. La dame, elle peut prier. La dame, elle peut prophétiser. On le voit de la notion de prier dans le verset 9. Si on avait tourné dans 1 Corinthiens chapitre 11, peut-être on peut tourner. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. La femme, elle a le droit de parler dans l'Église. Elle a le droit de prier. Elle a le droit de prophétiser. Mais ce n'est pas son rôle de formuler l'enseignement fondamental de l'Église locale. C'est un rôle que Dieu a donné aux hommes, aux anciens, aux pasteurs. Et je m'imagine que dans l'église d'Éphèse, implantée par un couple, Priscille et Aquilas, est-ce que c'était mal ça? On a vu la dernière fois, c'était pas mal. Mais il devait avoir une dame à l'Éphèse, Priscille, qui devait exercer ses dons, ses habiletés. Elle devait enseigner des gens. Elle devait être très active dans l'Église. Et il y a des personnes qui pouvaient dire, ben si Madame Priscille a fait ça, ben moi je peux faire ça. Puis là, si Madame Priscille a fait ça, ben moi je peux. Et là, finalement, il y avait probablement des dames qui ont été plus loin que les limites que Dieu avait données à la dame dans l'Église en ce qui concerne la formulation de l'enseignement dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, qui peut le lire? Oui, vas-y Sonia. OK, la femme qui prophétise sans redevabilité envers son chef, c'est pas bien. Est-ce que ça dit que la femme ne doit pas prophétiser? Est-ce que ça dit que la femme prophétise même? Oui. Mais dans certaines conditions, à l'intérieur de certaines limites, la femme doit un peu prier, la femme peut prophétiser à l'intérieur. Et la limite habituellement de la dame dans le culte public, c'est dans la relation qu'elle a avec son mari. Et évidemment, dans la relation qu'elle a avec l'autorité de l'Église, avec l'enseignement. Oui, tu avais un commentaire, Jean-Pierre? Pardon? Hyménée? Non. Non. Il y a un E, c'est ça. Oui, c'est ça. Des fois, oui, c'est ça. Des fois, Hyménée, c'est un nom masculin. Mais Alexandre aussi, ça finit par un E, mais c'est un autre devil. Mais dans ce cas-là, il y a des noms en grec qui sont masculins, puis qu'on a traduit, puis que ça finissait par E. Puis des fois, on a mis E. Et ça oui, c'est ça, Hyménée. Bon, alors, d'une part, la position à adopter chez la dame, c'est d'écouter l'instruction de façon paisible, de ne pas être celle qui est responsable de l'enseignement. Ce n'est pas celle qui prend de l'autorité sur l'homme. Et comme je dis, il y a eu beaucoup d'encre qui a été coulée là-dessus à cause de qu'est-ce que ça veut dire ce mot « prendre autorité sur l'homme ». Le verbe qui est là, il existe une fois dans tout le Nouveau Testament. Alors, c'est dur de dire « Hey, c'est ça que ça veut dire », puis c'est tout carré, parce qu'on n'a pas plusieurs répétitions, plusieurs contextes dans lesquels ce mot-là est employé. Mais c'est « auten tein ». Mais ce que l'on sait, par exemple, clairement, dans la forme, c'est la notion de « auto », qui est le préfixe de ce mot-là. C'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui se fait par lui-même, sans dépendance des autres. Alors, la notion de prendre autorité, dans d'autres textes hors du Nouveau Testament, le mot « autotène » veut dire « exercer une domination »,« usurper l'autorité »,« agir indépendamment »,« prendre le pouvoir de façon autonome ». Ce n'est pas traduit comme ça dans notre Nouveau Testament, mais dans les textes grecs des autres écrivains, le mot « authentein, il a cette signification-là de dominer, de usurper, de prendre l'autorité d'un autre, de agir de façon autonome, indépendant des autres, d'être le boss dans ce qui se passe. Alors, Paul dit dans l'Église, je ne permets pas, la femme, son attitude doit être de recevoir l'instruction plutôt que de conduire l'enseignement, et elle ne doit pas agir de façon indépendante, elle ne doit pas agir à usurper l'autorité, à exercer une domination, à prendre le pouvoir de façon autonome. Alors, plusieurs des traductions modernes ont traduit, par exemple, « Je ne me permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme », en utilisant l'enseignement comme manière de prendre autorité sur l'homme. Mais en réalité, c'est ces deux notions-là. La dame doit être celle qui reçoit l'instruction plutôt que celle qui la donne. Et la dame, ce n'est pas elle qui formule l'enseignement autoritaire, mais ça, c'est donné à l'homme. Est-ce qu'on est en train de dire que la femme ne peut rien enseigner dans l'Église? Je ne pense pas que ce texte-là est en train de dire ça. La femme peut exercer tous les ministères que Dieu lui a donnés. Puis dans l'Église, il y a plein de ministères. Mais quand Dieu a équipé des personnes avec des dons, est-ce que c'est possible qu'une dame ait un don d'enseignement? Dieu, peux-tu donner ça, un don d'enseignement à une dame? Certainement. Si Dieu donne un don d'enseignement à une dame dans une Église, est-ce qu'il s'attendrait à ce qu'elle s'en serve? Il me semble bien que oui, moi. Est-ce qu'il y a des limites à l'intérieur de l'exercice de son don d'enseignement? Oui. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Mais de prendre les textes en disant « je ne permets pas à la femme d'enseigner » dans le sens « elle ne peut pas partager un dimanche soir, ouvrir la parole de Dieu puis dire « j'ai lu dans Proverbe 15:1 une telle chose » puis que ça console, ça l'édifie, ça l'encourage les autres. Ça, c'est la prophétie. Elle peut certainement le faire. Alors, Paul laisse Timothée à Éphèse parce qu'il y a certains défis à faire face dans l'Église d'Éphèse. Des défis au sujet des anciens. Certains anciens enseignent des fausses doctrines. Il faut voir ça. Et je pense que dans l'Église d'Éphèse, il y avait des dames qui allaient au-delà des limites que Dieu a établi pour l'enseignement, pour le couple, pour la direction de l'Église. Alors, il va clarifier l'autorité, il va limiter l'autorité de la dame dans l'Église. Et il va continuer avec, ça va, on peut sauter un autre, un Timothée chapitre 3, il va parler après ça, il va tout de suite reclarer, oh, on aurait pu continuer là aussi, d'autres affaires, versets 13 à 15 qu'on n'a pas commenté là. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit écouter l'instruction plutôt qu'elle responsable de l'enseignement formel? Bien, Dieu a donné dès la création un ordre. Adam a été créé le premier, Ève a été créée ensuite. Et la dame, elle a une... Dans sa nature pécheresse, elle a une tendance d'aller... utiliser, miner l'autorité de son mari. Comme le mari a la mauvaise tendance de dominer, d'écraser son épouse. Et il va prendre le principe, elle va être délivrée, elle va être sauvée de cette attitude de vouloir usurper l'autorité en exerçant son autorité où? Dans la maison, sur les enfants, de donner naissance, elle va être sauvée en devenant mère, en persévérant avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Tout son zèle, elle peut l'exercer à travers la maternité. C'est ce que Paul est en train de dire, au lieu de usurper l'autorité dans l'Église, qu'elle utilise tous ses talents, puis qu'elle investisse ça plutôt dans son foyer avec ses enfants. C'est comprenable ça? Vous allez pouvoir lire, si vous lisez beaucoup là-dessus, vous allez voir d'autres affaires. Mais c'est comme ça que je comprends, pas trop compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais le mot « sauver » ici, c'est la notion d'être libéré, délivré. Délivré de quoi? De ce qui vient de dire, de prendre autorité sur l'homme. Elle va être délivrée de cette tendance à usurper l'autorité. Ça, c'est une tendance pécheresse de la femme. Comme la tendance pécheresse de l'homme, comme je l'ai dit, on en a une, nous autres aussi. C'est d'écraser. Femme touée. Hein? Femme touée, puis dit écrase. C'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Mais elle va être délivrée de son problème, de sa tendance à elle, en investissant son cœur, son énergie, en devenant mère. Puis en persévérant. Dans la foi, dans la modestie, dans la sainteté, dans son milieu familial. Elle va pouvoir exercer tous ses ministères, toute son énergie. Elle peut se donner entièrement là, puis c'est bravo. C'est ce que pense Paul est en train de dire. 1 Timothée chapitre 3, alors Paul va continuer en clarifiant maintenant les rôles. Alors il va dire, chapitre 3, verset 1. Hein, si cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable et tout de suite, irréprochable, c'est le mot général. Faut pas qu'il soit attaquable par les gens de l'extérieur pour dire, hey, vous avez un pasteur, mais regarde ce problème-là dans sa vie, c'est tellement clair. Faut qu'il soit pas attaquable, évidemment, de l'extérieur. Et la première caractéristique de sa vie, c'est que ça doit être quoi, après? Il dit, faut qu'il soit mari d'une seule femme. Alors déjà, il a clarifié la notion de la dame, et là, il arrive, l'autorité dans l'Église, les responsables dans l'Église, ça doit être des hommes, c'est-à-dire des maris d'une seule femme. Il va clarifier le rôle d'évêque, ou de pasteur, ou d'ancien, et il va aussi, dans la même chose, clarifier le rôle de diacre. Si on regarde à partir du verset 8, eux aussi, il y a des diacres, et eux aussi, leur aspect familial est important. Il dit, les diacres, verset 12, doivent être maris d'une seule femme, bien diriger leurs enfants, leur propre maison. Eux aussi, ils ont un rôle d'être maris d'une seule femme. Et là, comme quelqu'un... Oui. Encore là, il y a beaucoup d'options possibles. C'est ça, il y a beaucoup d'options. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens vont dire, mari d'une seule femme, ça veut dire un homme qui a juste une femme, qui est fidèle, qui est attaché à sa femme. D'autres vont aller plus à la notion un homme qui dirige bien sa maison et par conséquent a sa femme avec lui, puis qui la dirige. Alors, il n'y a pas eu trois femmes dans sa vie. Alors, la notion de divorce deviendrait une implication. Moi, je pense un peu de ce côté-là là aussi, parce que les dames, un peu plus tard, il y a les dames qui peuvent être sur le rôle. Elles doivent avoir été épouse d'un seul homme. la notion, elle est inverse. Alors, je pense qu'un échec conjugal pour un homme dans sa vie précédente le disqualifie d'être un pasteur. Je vois mari d'une seule femme, ce deuxième élément-là, pas divorcé. Il y a des gens qui ne voient pas ça. Là. Ils voient juste, es-tu fidèle à sa femme, un point, c'est tout. Il y en a d'autres qui vont aller plus loin puis qui vont dire, ça veut dire que pasteur ne doit jamais être remarié. Il doit avoir été marié de juste une femme dans sa vie. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que Paul encourage au remariage des veuves. Il dit, remarie-les. Alors, ça ne doit pas être un péché pour un homme veuf de marier une veuve, puisque Paul dit aux jeunes veuves de se remarier. Alors, ça ne doit pas être... Alors, il y a différents éléments. Il y en a que c'est être fidèle, d'autres que c'est être fidèle plus ne pas avoir été divorcé, puis il y en a d'autres que c'est être fidèle plus ne pas avoir été divorcé plus ne pas être remarié si tu es veuf. Moi, je suis plus d'avis du deuxième. Il doit d'abord être fidèle à sa femme et il ne doit pas avoir été divorcé. Mais il le mentionne un peu. Il doit bien présider sa maison. S'il n'est pas capable de prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, s'il y a un échec conjugal dans son foyer, ça l'augure mal pour prendre soin d'une grande famille de famille. C'est comme ça que je comprends le texte, mais d'autres peuvent être des bons croyants puis penser différent de moi, puis ils vont peut-être aller au ciel pareil. Oui, Céline. Pas vraiment. Pas assez pour que ça, qu'il en fasse un critère, là. C'était pas bien vu dans le premier siècle, la polygamie. Et il y en a que c'est cette notion-là, avoir juste une femme, là, d'être fidèle à une femme. Évidemment, il n'y avait pas de critères dans l'Ancien Testament très précis sur la polygamie. Hein, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Le modèle était monogame. Mais la pratique d'Israël dans l'Ancien Testament, vous lisez ça, puis vous voyez des fois que... ils ne sont pas limités à un. Et Dieu n'a pas l'air d'avoir condamné ça officiellement dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, pour être pasteur, pour être un évêque, on doit être mari d'une seule femme. Et je pense que ça l'inclut aussi la notion, de évidemment, d'être monogame. Mais je ne suis pas sûr que c'était le grand problème dans la société romaine. C'était déjà un peu pas approuvé beaucoup la polygamie. Oui, Serge? Il a toléré le divorce. Tu parles du divorce, pas nécessairement de la polygamie, là. C'est ça. Ouais, ben là, c'est un autre thème. Je pense qu'il y en a trois, moi, plutôt qu'un, mais il y a l'adultère que tu viens de citer. 1 Corinthiens chapitre 7 parle de l'abandon. Si le non-croyant sacque son camp, qui sacque son camp, le croyant n'est pas lié dans ces cas-là. Alors ça, c'est un deuxième. Et je crois que la vie, si rentrer chez moi, il y a un fusil qui m'attend, c'est aussi bien de ne pas rentrer chez moi. Et si ma vie, alors je dois protéger ma vie. Alors ça, c'est pas avoir une insulte de mon mari, là, mais ma vie doit être protégée. Et si c'est en danger de mort de rentrer chez moi parce que mon mari est tellement violent que je risque de me ramasser à l'urgence à chaque fois, ça, à mon avis, ça pourrait être un cas de... Ben, en tout cas, là, c'est un autre, je vous dis, c'est un autre domaine. Mais c'est un cas où je peux dire à une dame, t'as pas besoin de vivre avec ton mari. Et là, on peut avoir des détails plus loin, là. Dans l'Ancien Testament, il y avait quand même des critères pour un mariage. Provision, protection, affection. Ça, c'était des critères établis que l'on voit dans la... Alors, il ne nous dit pas, si tu n'as pas ça, tu peux divorcer, mais il y avait ces trois critères-là. Provision, protection, affection. Quand un couple perd tout ça, ben il y a un problème, évidemment. Puis là... Là, on vient changer de sujet. Ouais. Alors, à Éphèse, alors Paul va reclarifier le rôle des dirigeants dans l'Église. Et aussi, au chapitre 5, et là, mon ami, c'est intéressant, mais au chapitre 5, versets 19 et 21, quelqu'un peut lire 19 à 21 du chapitre 5? Il va parler aussi d'un autre défi dans l'église d'Éphèse, les ouvriers. Voici Danny. OK. Qu'est-ce qui nous enseigne ici au sujet des anciens dans l'Église? Faire attention à leur réputation, les respecter. Comment qu'il dit ça? Protéger leur réputation parce que les ouvriers en l'avant sont très ciblés pour leur réputation. Alors, ne reçois pas d'accusation là, contre un ouvrier, si ce n'est quelque chose d'évident. Deux ou trois témoins, je l'ai vu sur la rue, il a ramassé une prostituée, puis là, il faut le confronter. Là, il faut intervenir, il ne faut pas fermer les yeux. Mais pas n'importe quel blabla sur la réputation de l'ouvrier. Protège sa réputation. Ne reçois pas d'accusation, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Mais... qu'est-ce qui arrive après ça? Ceux qui pêchent. Et en réalité, en grec, c'est un présent. Alors, c'est un présent qui manifeste la continuité. Celui qui continue dans son péché, ben, on ne ferme pas les yeux non plus là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le reprendre. On doit le reprendre. L'Église doit le reprendre. Les anciens ne sont pas à l'abri de la discipline d'Église. Moi, j'étais un ancien. Matthieu 18, là, ça me touche pas. J'étais un ancien. Non. C'est pas ça que ça dit, là. Lui aussi, il est sujet à la discipline de l'Église comme n'importe quel autre croyant dans l'Église. Et c'est ce que Paul enseigne à Timothée pour l'Église d'Éphèse. S'il y a des anciens à Éphèse, et il doit en avoir, qui enseignent de mauvaises doctrines, qui ont perdu la conscience, qui ont perdu, fait de naufrage en ce qui concerne la foi, tu vas avoir besoin d'y reprendre. Et de reprendre devant tous. Mais il dit, fais attention, hein, verset 21 qu'on a lu, d'observer ces choses d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire par faveur. Il faut faire ça avec grand soin, la discipline d'anciens. Parce qu'évidemment, ça touche toute l'Église. Et finalement, Paul, tourné dans 2 Timothée, chapitre 4. Un Timothée, il a laissé Timothée à Éphèse, puis là, il a dit quoi faire, il y avait des défis. Là, Paul va voir d'autres églises, il se fait attraper une deuxième fois, il est entré en prison une deuxième fois, puis là, il sait qu'il va mourir parce que là, c'est Néron qui le fait, c'est le César Néron qui le fait entrer parce que le christianisme est une religion illégale. Il le fait rentrer à Rome, puis là, Paul va mourir. Alors, avant de mourir, il écrit 2 Timothée, puis il dit à Timothée... viens passer une fin de semaine avec moi avant que je meure. Tu sais, viens me voir. Viens m'encourager. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9, 12 et 13. Quelqu'un peut lire 4-9. Je vais le lire. Quelqu'un 12 et 13, 4-9. Viens au plus tôt vers moi. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée, viens me voir en prison. Là, tout le monde m'a lâché. Toi, tu es un compagnon que j'ai eu. J'ai envoyé Tychique pour te remplacer s'il faut, mais viens me voir. Regardez bien ça, verset, j'ai dit 12 et 13. Quelqu'un? Oui, vas-y, Richard. OK, alors, viens-t'en chez moi, puis en venant me voir, ben moi, j'ai envoyé, qui dit, Tychique Caïphès. Alors, lui, il est là, il va te remplacer, puis il amène, j'ai les frettes ici, amène un manteau, amène des parchemins, qu'on partage les Écritures ensemble, puis viens me voir, viens me voir. Et finalement, verset 19, j'ai trouvé ça intéressant aussi, salut Prisca et Aquilas, et la famille de Nécivar. Comment ça, Prisca et Aquilas? C'est qui ça? C'est encore le couple implanteur à Éphèse, sont encore là. Monsieur et madame sont encore là. Puis ils servent à Éphèse. Puis à la dernière minute, Timothée, il s'en vient. Il me dit, salut le couple que j'aime beaucoup, qui a implanté l'Église. Salut Priscille et Aquilas. Il faisait qu'on aille dans l'Apocalypse, ça va être une autre fois, j'imagine encore. Mais on a vu les défis de l'Église. Qu'est-ce qu'on a, quelle leçon qu'on peut tirer de 1 et 2 Timothée, les défis qu'il y avait dans l'Église d'Éphèse? Je pense à la base, il faut veiller sur l'enseignement dans l'Église. Il faut veiller sur l'enseignement dans l'Église. Il faut veiller sur le témoignage des croyants. Faut veiller sur le témoignage aussi des ouvriers, se rappelant que les ouvriers, la discipline, les dirigeants sont pas exclus de la discipline biblique. Faut veiller sur l'enseignement, c'est le cœur de la vie de l'Église, le fondement de la foi, c'est les Écritures. Alors faut faire attention à qu'est-ce qui est enseigné dans l'Église. Puis il faut aussi que tout ce qui est enseigné, je pense une deuxième leçon, que tout ce qui est enseigné ben dans l'Église, soit soutenu par les anciens, par ceux qui sont responsables. On ne peut pas permettre à des gens d'enseigner dans l'Église si ça ne correspond pas à l'enseignement des anciens qu'on a établi sur place. Il ne faut pas avoir de séparation dans l'enseignement. Les ouvriers doivent être responsables de qu'est-ce qui s'enseigne. Est-ce que c'est une dame qui enseigne? Est-ce que c'est un homme qui enseigne? Est-ce que c'est l'école du dimanche? Est-ce que c'est le Centre Emmanuel? Est-ce que c'est le culte d'enfants? On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'enseigne, là. Puis on a besoin de savoir qu'on approuve ça, puis qu'on est là, les groupes d'hommes, les groupes de femmes. Je me souviens, l'année dernière, les dames, il y avait un livre qui voulait commencer à lire. J'ai lu ça, puis j'ai dit, hey boy, je l'aime bien, mais il y a deux chapitres là-dedans que j'ai de la misère à avaler. Je vais m'asseoir avec vous autres, puis on va regarder ça. Puis finalement, en s'assoyant, on a dit, on va faire un autre livre à place. Il y avait une autre possibilité, puis on fait un autre livre. C'était formidable. Mais c'était ma responsabilité, il me semble, de veiller à ce que, qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce que les dames vont recevoir comme enseignement? Les hommes cette année, l'homme dans le miroir, on va donner ça. Je pense que c'est Sonia ou Claude, je ne sais pas trop. C'est Sonia. J'ai eu le livre sur mon bureau. J'ai passé à travers et j'ai aimé ça, mon ami. J'ai dit, yes, ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est moi qui dois enseigner ce livre-là aux hommes? Non, il y a des gens qui ont les possibilités d'animer puis des dons d'enseignement puis qui l'exercent. C'est une chose merveilleuse. Mais en même temps, les anciens doivent savoir ce qui se passe puis ils doivent veiller sur l'enseignement qui se donne dans l'Église. Une troisième leçon que je tirais, les dames, ils peuvent certainement prier dans l'Église, ils peuvent exercer divers ministères comme la prophétie, ils peuvent même enseigner dans la mesure qu'elles ne renversent pas leur rôle dans leur foyer, puis dans la mesure qu'elles respectent la direction de l'enseignement qui est donnée par les anciens. Mais il y a de la place aussi pour les dames d'exercer des ministères et ça n'exclut pas le ministère d'enseignement. D'autres leçons qui vous viennent en tête qu'on peut retirer de 1 et 2 Timothée? Oui, Jean-Pierre? Bon, la deuxième fois qu'il a été arrêté, c'est à cause de sa foi. ben, il avait pas été, je sais pas. C'est pas surprenant que les autres l'avaient abandonné, par exemple. Mais je pense que pas. Ben, les autres avaient abandonné. Mais c'est sûr qu'il devait avoir un risque, évidemment. Mais je pense que c'était permis à des amis d'un prisonnier que d'amener un manteau, puis de la nourriture, puis des parchemins. Alors, Timothée n'était pas obligé de dire « Hey, moi aussi, j'étais un pasteur à l'église d'Éphèse, voulez-vous m'attraper? » Il n'était pas obligé de se mettre la tête dans la gueule du lion. Hein? Il y avait certainement un risque parce qu'il était un croyant. Mais Néron avait pris la décision d'arrêter toutes les têtes de l'église chrétienne. Alors, il a fait venir Pierre, Paul, sont tous les deux morts à Rome, à peu près dans le même temps, autour de 65. Alors, il a été chercher les têtes. Plutôt que de courir après tous les chrétiens, il y avait déjà des centaines de milliers de chrétiens, là. Et d'ailleurs, à Rome, il y a des dizaines de milliers qui sont morts, brûlés. Je vous ai déjà expliqué ça, ils s'en servaient comme lampadaire, là. Accrocher, empaler quelqu'un, mettre le feu dedans pendant la nuit, puis ça brûlait une nuit, ça, un cadavre. Là. Alors, ça, c'était commun à Rome, ça sentait terriblement. C'est certainement un jugement public des croyants. Hey, tu as envie de t'afficher chrétien, garde, tu vas finir au bout du poteau, là, tu vas servir de lumière pour une soirée. Là. Vous êtes la lumière du monde, mais il y a des limites, non? Oh Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour l'église d'Éphèse. Dans un sens, ça me montre, Seigneur, que chaque église locale a ses belles choses, puis chaque église locale a ses défis à confronter. T'as laissé Timothée à Éphèse parce qu'il y avait des défis à confronter. Et Seigneur, merci parce que tu nous as donné des instructions dans ta parole pour comment confronter dans chacune de nos églises divers défis, que ce soit comme à l'église de Corinthe ou à Éphèse ou à Thessalonique ou en Galatie, Seigneur. Il y avait des défis partout, il y en a aussi chez nous. Seigneur, donne-nous la grâce de confronter nos défis sur la base des principes de ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui doit être notre autorité dans nos vies et dans l'église, certainement. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.